les oreilles. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. On se souvient de cette chanson, c'était Gilbert Bécourin qui chantait ça. Écoutez, pour le paraphraser, j'ai envie de dire que c'est en septembre que l'on peut enfin lire pour de vrai. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, coucou, Clotilde Seille au micro. C'est une nouvelle saison qui débute pour l'émission Des livres pleins les oreilles. La seule émission littéraire, mes amis, qui s'est donnée pour mission de promouvoir le livre audio, cet abandonné par tous. Et on va parler de tous les livres audio. C'est un peu la nouveauté de cette année. En vous rassurant, malgré tout, on va continuer de vous faire connaître le catalogue des nouveautés auxquelles le SQLA, autrement dit le Service québécois du livre adapté, vous donne accès gratuitement ici au CAEB, pardon, au pays, dont aussi le CAEB. Mais on s'est dit qu'un livre audio, ça pouvait parvenir à toutes les oreilles. Je dis bien à toutes les oreilles, y compris à celles des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Alors à cette émission, cette année, c'est le livre audio qui sera la grande vedette. Oui, celui qu'on achète ou celui qu'on télécharge, ou qu'on reçoit gratuitement via une bibliothèque ou une autre. On pense à Audible, Audioline, Valentin Huy à Paris, Radio-Canada, Lire dans le Noir, ADA, Coffragan, et puis bien sûr Vues et Voix au Québec, tous ces gens qui produisent des livres sonores auxquels nous avons tous accès, soit en les achetant, je le disais, ou en les téléchargeant, ou encore en les empruntant. Et puis, les accords de Marrakech, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ces accords permettent aux non-voyants de la Terre entière d'avoir accès à toutes les bibliothèques sonores de la planète, dont le SQLA, bien sûr, mais tant d'autres aussi. Alors on pense qu'il est temps que l'émission Des livres pour les oreilles se consacre entièrement à cette richesse assez incroyable de livres audio qui nous tend les bras, parce que bien, nous aimons tous nous faire raconter des histoires.
C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai.
Alors autour de la table aujourd'hui pour vivre cette émotion qui est la mienne, mes premiers invités, je vais commencer par mes premières invitées. Daniel Lorrain est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Clotilde.
Bien sûr, il sera question de ce livre, Daniel, que vous avez coécrit avec votre maman, Denise Filiatro, toujours bien occupée, toujours un petit peu partout, malgré son certain âge et son âge certain.
Alors, mais son âge certain, oui, alors 87 ans.
Quand même
le dire, on ne peut pas l'inventer. Madame est à Angoulême en ce moment au Festival du cinéma.
Voilà. Bien, alors on va revenir sur ce livre ensemble. Je vous présente M. Gérald Cousineau, qui est un lecteur, qui est non-voyant, qui participe assez régulièrement à cette émission-là. Et je lui ai demandé de lire pour nous ce livre donc, que vous avez coécrit « Quand on est né pour un petit pain ». Et puis en seconde partie, on va faire connaissance avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève.
Bonjour Clotilde.
Geneviève Lefebvre, c'est Yannick Olassa qui va venir nous parler de ce livre qui s'appelle « L'insolite destin de Julia Verdi ». Ce n'est pas le premier du nom, hein. il y en a eu d'autres avec cette Julia, ou non,
pas... C'est-à-dire qu'il y a une double édition, une au Québec et puis une chez Robert Laffont à Paris.
Ah, c'est ça, et ce n'est pas le même titre.
Ce n'est pas le même titre.
D'accord. Alors
mais
on
c'est
va...
le même livre.
Mais c'est le même livre. C'est alors, même. On va en parler ensemble en seconde partie. Et je voudrais aussi dire que Gérald va nous offrir une chronique en seconde partie et nous présenter un livre, le livre de Jean-Yves Soucy. Quand tu es né, non pas quand tu es né pour un petit pain, mais les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos. Voilà. Dieu, que j'aime ce titre. Cher Gérald, pour commencer, oh tiens, un tout petit extrait de cette voix qui nous est si familière.
Non, j'avais pas un grand talent, ou je l'avais peut-être, mais je le savais pas. Mais on m'a aidé à le développer. Puis là, je me suis aperçue que j'en avais plus que je pensais. Mais comme je travaillais au cabaret, c'est le seul endroit où on pouvait travailler, puis ça marchait pas, parce que je suis pas bonne, puis j'étais pas bonne. Alors, jusqu'à ce que je rencontre Jacques Lorrain, qui a été comme mon mari, le père de mes enfants, qui était un pygmalion pour moi, puis qui m'a laissé, qui m'a aidé à développer ce que j'avais en moi.
Ça, c'était, j'ai trouvé ça, c'était un extrait d'une émission sur Radio-Québec. Daniel Lorrain, votre maman, qui n'a pas été tendre envers beaucoup de gens, mais a commencé par elle-même. Parce qu'elle elle supporte pas beaucoup l'incompétence. À un moment donné, dans le bouquin, elle en parle, mais elle était dure envers elle-même. Elle disait...
C'est-à-dire qu'elle était lucide. Je pense qu'elle l'est encore à plein d'égards. Mais je veux dire, elle était lucide envers elle-même. Elle se voyait... elle se voit telle qu'elle était. Elle voit...
Et c'est-à-dire qu'elle se voit, en tout cas, quand elle faisait les boîtes, là, elle disait, bon, c'est tout juste si on ne me lance pas des tomates, puis je comprends, quoi.
Oui, puis en même temps, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, il n'y avait pas d'école pour apprendre ce métier-là, comme elle l'a dit elle-même, elle l'a appris sur le tas, c'est-à-dire en le faisant. Au départ, comme elle était maladroite, elle faisait des choses... elle ne savait pas, qu'est-ce que vous voulez, se tenir sur une scène, ça s'apprend, ça se développe.
Bien sûr.
Avoir une présence, être en contact avec le public, bon, c'est plein de choses qui se peaufinent, qui se façonnent, qui s'apprennent avec le temps. Et ben c'est ça, elle a fait ses classes... Elle a fait ses classes comme tout le monde.
Ah oui, absolument.
Mais bon, au début, qu'est-ce que vous voulez? On est naïf, on est jeune, on pense qu'on l'a, puis on se lance, et puis on pense que c'est merveilleux, puis que ça va être le triomphe immédiat et rapide. Et puis, 99% des cas, c'est pas ça.
Non, c'est ça. Et heureusement, elle a quand même croisé cet homme, votre papa, qui fut son Pygmalion. Elle en parle carrément comme
Oui, tout à fait. Ben, d'abord, il avait 15 ans de plus qu'elle. Il arrivait de France. Il avait lui-même pratiqué le métier là-bas. Il connaissait un tas de gens. Donc, il arrivait avec un certain bagage. Et c'est ça, il y avait quand même un certain nombre de choses à lui apporter. Puis c'est avec lui qu'elle a fait ses premières
classes,
armes.
C'est classe,
c'est classe, comme on dit. Il lui a appris le B.A.
Mais lui, il avait remarqué, bon, j'imagine aussi qu'il est tombé amoureux, ça aide, mais il avait remarqué en cette femme-là tout le potentiel qu'elle n'avait pas, parce qu'elle le raconte, d'ailleurs, vous le racontez très bien dans le livre, il est là tous les soirs au coin du bar, alors qu'elle, la pauvre chérie, elle en arrache chanson après chanson, et lui, il est là fidèlement, elle se dit, mais qui c'est ce bonhomme qu'elle finira donc par épouser,
c'est ça.
Son Pygmalion.
gars qu'elle regarde, et ce Français, elle dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? De toute façon, il vient m'enlever ma job. elle lui trouve absolument rien qui la charme, elle trouve qu'il a l'air d'un Anglais, elle trouve qu'il n'a pas l'air d'un Français, en tout cas. Mettons que la rencontre n'a pas été idyllique au départ.
Et alors, c'est très drôle parce qu'entre autres, ils partent à Paris à un moment donné. Et moi, il y a cette scène qui fait mourir de rire. C'est peut-être parce que, bon, je suis française d'origine, même si ça ne fait plus 30 ans que je suis là, mais j'ai vécu à Paris. Et il y a cette scène digne de Michel Audiard. Permettez, Jacques, alors votre papa, qui à l'époque, on peut l'imaginer, avait l'accent parisien exactement.
Oh, il l'a gardé jusqu'à sa mort.
Il l'a gardé jusqu'à sa mort. Et alors, à un moment donné, j'imagine que c'est y a une affaire de carte de crédit. En tout cas, je me souviens plus. Puis alors, on lui dit, alors Dupont, t'as fini tes conneries. La Merloc, il t'emmerde et ta mère avec. Il me semble, c'est tellement savoureux.
Oui, c'était quelque chose. Mon père, c'était quelque chose. Il parlait comme Jean Gabin.
Et là.
Il avait tout à fait... il était né à côté de la gare Saint-Lazare, à 18 rue de Moscou, à Paris, dans ce coin-là. Il avait une action, il rentrait français, très comme ça, c'est quelque chose, hein? cher homme.
Daniel Lorrain, quand elle parle des boîtes de nuit, d'ailleurs, qu'elle nomme des cabarets, moi, je pensais qu'on appelait des cabarets à Paris, en France, mais ici, je pensais qu'on appelait ça aussi des cabarets, c'est là que j'ai découvert, mais effectivement, c'était plutôt le faisan doré, hein, toutes ces boîtes-là.
Oui, c'était des cabarets.
C'était difficile.
Quand tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, bon, qui venaient voir maman ces dernières années, puis qui avaient, comme Dominique, comme ces gens-là, qui avaient une vision, un peu romanesque du cabaret, puis qui disent « Ah, oh, ça devait être formidable, ça devait être ci, ça devait être ça. » Puis je te dis qu'elle te leur a mis leur montre à l'heure bien rapidement.
Oui, ben,
parce qu'elle leur a dit « Non, c'est affreux, c'est voilà. épouvantable, il n'y a rien de pire, personne ne vous écoute, personne ne veut rien savoir de vous autres, ils sont là pour prendre un verre. »
C'est ça.
C'est des conditions excessivement difficiles. Excessivement hein. difficiles.
Vous écrivez, elle écrit en page 147, « Je n'en ai aucune nostalgie et je n'y vois rien de folklorique.
Oui. » Absolument. Hein, absolument.
C'est vraiment ça. Et puis, juste avant qu'on ait écouté un extrait de la lecture qu'on a fait notre lectrice ici chez Vues et Voix, j'ai pensé que ça vous intéresserait d'entendre ça. Un petit retour, parce qu'elle le fait dans ce livre, sur moi et l'autre, sur cette immense injustice dont elle pense, dont elle est encore convaincue avoir été la victime. Mm-hmm. Elle le raconte carrément. À un moment donné, elle a dit « Écoutez, c'est assez. Je suis scripteur et je veux aussi que mon nom soit à titre de quoi, scripteuse ?»
Oui, de oui,
d'auteur. Ben,
qu'elle participait au texte à titre d'auteur. Oui,
et ça
bien
fait
sûr.
Mal de lire que personne autour d'elle n'était d'accord avec ça. Mm-hmm. Donc, y compris, bien sûr, Dominique Michel. Et ça, ça lui est resté en travers de la gorge.
Ah
hein,
oh, oui, vous savez, ce sont de vieilles histoires. Oui. Mais c'est sûr qu'elle a été blessée parce que pour elle, c'était important. Ça comptait, comme elle le dit elle-même, parce qu'elle, elle se disait plus tard, quand j'aurai besoin d'écrire, on ne m'accordera pas de crédit, on ne saura pas que je suis capable de le faire. Oui. C'était ça, son combat.
Je vous propose alors d'entendre, c'est le début même du prologue. Ça a été lu par une bénévole qu'elle a depuis très longtemps chez nous, qui s'appelle Denise Tessier. On écoute.
À 86 ans, je vois l'histoire de ma vie qui défile en séquence sur la pellicule de mes souvenirs. À la demande générale de mes amis et surtout de mes fans, il m'en reste quelques-uns, j'ai entrepris d'écrire ma biographie pendant qu'il est encore temps, et j'avoue, afin d'éviter que d'autres s'y attellent et vous racontent n'importe quoi. J'ai aussi demandé à ma fille Danielle de m'assister dans cette tâche, car elle aurait beaucoup plus de patience que moi pour chercher sur Internet et dans d'autres archives à peu près tout ce que j'ai accompli au cours de mes multiples vies. Celle de chanteuse de club, actrice, duettiste, auteur de sitcom, scénariste et réalisatrice de films, metteur en scène et enfin, depuis 10 ans, celle de directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert. Elle saurait aussi trouver les photos susceptibles d'intéresser les lecteurs, car je ne suis pas ramasseuse. Je me débarrasse de tout. La preuve, lorsque vers l'âge de 10 ans, Danielle me surprend à... « Maman, qu'est-ce que tu fais là? » « T'en as donc ben des blouses blanches. On va y donner, je les ai assez vues. »« Mais maman, c'est mes blouses pour l'école. Elles sont encore propres. »« Raison de plus, elles sont encore propres pour les donner à ceux dans le besoin. »« Puis tiens, à partir de maintenant, tu iras en classe avec des blouses bleues. Ça va mieux aux blondes. »« Mais maman, c'est l'uniforme obligatoire. Jupe grise, blouse blanche, blazer bleu marine. »« Ah oui? »
Thank you.
les deux réunis, hein, Jacques Lorrain et votre maman, Denise Filiatro. Ça, ça vous a fait drôle, hein, sur le coup, Daniel?
Ben, c'est évident, ça, ça fait toujours un peu drôle. Oui.
Mais je veux une chose, faire. Daniel, j'avais oublié que votre mère avait chanté.
Mais oui, elle a tout fait, cette femme-là.
Cet épisode de sa vie.
Oui, oui, elle a chanté, elle a été chanteuse assez, assez longtemps. D'ailleurs, elle a été chanteuse avant de quoi que ce soit d'autre.
Oui,
c'est ça. Avant même d'être...
Oui, oui, elle n'était pas pire.
Et très aiguë, hein?
Elle était marquée. Ben là, non, tu sais, c'est normal, hein? Quand on est jeune, on a plus de... Les hautes sont plus... Bon, puis il y a aussi la technique d'enregistrement de l'époque.
Oui, c'est vrai.
Qui fait la...
Je vous présente Daniel Lorrain, Gérald Cousineau. Alors, Gérald est un habitué de l'émission. Les fidèles de l'émission de Livres plein les oreilles le connaissent bien. Cette année, la nouveauté, c'est qu'en fonction des invités que nous allons avoir, je lui ai demandé de lire le livre dont il est question dans cette première partie, en l'occurrence, Quand on est né pour un petit pain. Alors, ce livre, Gérald.
Moi, j'en suis ressorti fatigué. C'est incroyable.
Je vous comprends.
C'est incroyable tout ce qu'elle a pu faire. Elle a 87 ans maintenant, elle n'arrête toujours pas. Mais, et je pensais aussi, je me faisais un catalogue des personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie. Ah. Mon Dieu, chanteur français. Là,
dont Johnny Hallyday.
Oui, Hallyday entre autres.
Le petit vieux de 75 ans dont elle parle, qui n'était pas encore décédé
Un soir, elle va écouter Eddie Constantine, qui d'ailleurs a chanté ce qu'on vient d'entendre. Et là, elle rencontre Charlie Chaplin, comme ceux qui étaient dans la file d'attente pour aller féliciter le chanteur. Mais il n'y a pas que ça, elle rencontre plein de gens, sans compter les gens du cinéma en France et ici. Mais quelle carrière! Il y a eu un moment cru, elle en parle d'ailleurs, une traversée du désert, liée en partie à la faillite de son restaurant, tout ça. Mais quand même, elle rebondit toujours. Et quelle batailleuse! C'est vrai que, elle se surnomme elle-même parfois « petit boss des Pécosses », comme on dit au Québec, là. Mais quand même! Quand même, elle explique pourquoi on l'a peut-être surnommée comme ça, pourquoi elle a dû se battre. Et ça, je pense que c'est
et par rapport à ses peurs, hein, aussi. Elle dit, elle dit souvent que si elle a peut-être pu sembler dure, d'ailleurs, elle le regrette à un moment donné. C'est aussi beaucoup parce qu'elle-même avait des peurs.
Oui, oui, bien, hein, Gérald, comme je dis, c'est un petit chien à l'intérieur. Tu sais, c'est un tout petit chien qui aboie fort, là. Parce que, tu sais, il faut que pour se rassurer, en fait. Parce que c'est une grande insécure. Elle est tout le temps, elle a peur, continuellement, peur de ne pas être à temps, peur de ne pas avoir le temps de faire les choses, peur de ne pas les faire assez bien, peur de ceci, peur de cela. Alors, elle en met toujours plus que le client demande pour être sûr qu'il va en avoir assez. C'est toujours ça. Quand elle travaille au théâtre, c'est comme ça. Les choses sont prêtes comme ça. Si jamais il arrive quelque chose, le show est prêt. C'est toujours un essoufflement. Elle n'est jamais dans le moment présent. Elle est toujours dans l'instant qui vient après. C'est Michel Tremblay qui m'a fait remarquer ça. Elle m'avait dit, as-tu remarqué? Toujours en train de penser à ce qu'on va faire. On peut-tu faire ce qu'on fait là? On peut-tu manger tranquille ici, maintenant? Oui, mais tout à l'heure, on va aller là, on va faire ça. Ben oui, on le fera, mais regarde, ils sont là, on est là, on peut-tu en profiter?
D'ailleurs, elle rend un bel hommage à Michel Tremblay quand elle dit que Rose Ouimet a été le plus beau rôle au théâtre qu'elle ait jamais eu à interpréter.
Oui, pour elle, ça a été vraiment un point tournant aussi dans sa carrière. Ça a marqué,
et elle prenait un risque à ce moment-là quand même, parce que c'est un texte dont très peu voulaient. Justement, d'ailleurs, il y a Mario Girard, on en parlait tantôt dans son livre sur les belles-sœurs qui en fait cette évocation-là, qui dit qu'à l'époque, il y avait très, très peu de théâtre qui voulait se mouiller.
C'était révolutionnaire.
C'était révolutionnaire,
dire des choses comme ça sur scène à l'époque, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce que, bien entendu, on ne peut pas se représenter ce que c'était, mais à l'époque...
Le joual et tout ça, ben
Ça ne se pouvait pas dire ça. Elle-même, d'ailleurs, sur scène, quand elle...
elle
le dit, je devenais rouge comme une tomate, je regardais les femmes au premier rang, puis elle dit, je voulais rentrer dans le plancher.
Mais quand on connaît la Denise aujourd'hui, on a du mal à croire ça. Hein,
oui, mais elle est très timide. Elle est très timide. C'est un aspect de sa personnalité qu'on connaît mal. Elle a souvent l'air...
bagarreuse, fonceuse.
Oui, ça, c'est un aspect, mais en même temps, elle a l'air bourrue. Pas, c'est parce qu'elle est, elle est dans sa bulle. Elle est timide. Elle n'est pas... elle est faussement facile d'accès.
Intéressant. Qu'est-ce qui vous a vous marquez le plus, Daniel? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise?
Non, beaucoup me demandaient ça. Est-ce que tu as appris des choses que tu ne savais pas? Je dis non, j'ai rien appris que je ne sache pas déjà.
Bon, on va passer à une autre question.
Non, mais ce que ça m'a fait faire, par exemple, c'est un voyage dans le temps. Voilà. Moi aussi, ça m'a fait faire un immense voyage dans le temps. Quand vous avez dit, quand j'ai fini le livre, j'étais fatiguée. J'ai dit, moi, j'étais fatiguée à rédiger les choses parce que je me disais, mais comment a-t-elle pu faire tout ça? Des fois, je pensais à des journées, des moments de sa vie. J'étais fatiguée pour elle. Je me disais, mais comment elle faisait pour passer à travers ça?
Alors, si des fois vous prenez l'émission en cours de route, vous écoutez des livres plein les oreilles à Canal M, c'est Danielle Lorrain qui parle de sa maman, Denise Filiatro, un livre qu'elles ont co-écrit ensemble. D'ailleurs, j'ai dit quand on est, non, c'est quand t'es né pour un petit pain. Ouais. On va entendre un deuxième extrait lu par Denise Tessier, parce que Madame Filiatro, au départ, ne s'appelait pas Filiatro. Il y a donc eu le décès de sa maman et finalement, donc, cette rencontre avec la famille Filiatro, dont elle a fini par porter le nom. On écoute cet extrait.
Le père parent a sous la main un couple d'honnêtes gens, sans enfants et bons catholiques, qui seraient heureux de recueillir un bébé. Il s'agit de sa sœur Yvonne et de son mari, Paul Armand Filiatro, policier à la ville de Montréal. L'enfance entre bonnes mains, le sort en est jeté. C'est ainsi, sans autre forme de procédure, que Denise Lapointe atterrit chez les Filiatro, dont elle finira par porter le nom. Mes nouveaux parents reçoivent un bébé chétif et déshydraté qu'ils emmènent vite à la goutte de lait. Au début du siècle dernier, ces cliniques secouraient les jeunes mères ne pouvant allaiter leur bébé. En 1931, on ne possédait pas de réfrigérateur pour conserver le lait de vache à bonne température. Il se gâtait ou contenait des microbes. La goutte de lait se chargeait d'en distribuer et conseillait les jeunes mères sur la manière de bien nourrir leur enfant. Grâce aux bons soins d'Yvonne et de Paul Armand, j'ai vite repris de la vigueur. J'étais prête à m'engager sur le chemin de la vie.
Nous autres, dans notre temps, on aimait nos parents. Le respect des aînés, c'était quelque chose de sacré. Oh, je vous dis que ça a changé depuis quelques années. On n'a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans. Ça rentre, ça sort, ça niaise partout. Le soir, ça se couche tard, puis ça mène des vies de fous. Oh, c'est bien effrayant. Ça fume, ça bouait, ça se ruine la santé. Chambarde de toutes les lois, puis ça mange du curé. C'est donc décourageant. Parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui.
C'est donc décourageant d'entendre sa mère chanter
dire
ça.
Comme je dis à ma mère quand elle me fait honte, je regarde à terre, là, je regarde à terre, je te connais pas.
Mais la scène quand elle rentrait en autobus et qu'elle montait sur l'autobus.
Ah ça, tous les gens m'en ont parlé, bien sûr, puis lui en parle à elle aussi parce qu'ils peuvent pas s'imaginer que ce soit vrai. Mais c'est vrai parce que son amie d'enfance, Pierrette Allary, qui n'est pas la chanteuse d'opéra, qui était sa petite voisine et qu'elle a avec qui elle a entretenu des liens jusqu'à ce que Pierrette décède il y a 2 ans, m'a toujours raconté cette histoire-là. Puis elle me disait, mais ta mère me faisait faire n'importe quoi. Puis elle dit, moi, je l'écoutais, puis j'avais peur, puis je pleurais. Puis elle comprenait pas comment elle avait fait pour suivre cette folle-là dans toutes sortes d'aventures.
Danielle Lorrain, j'ai aussi envie qu'on parle de vous un peu, parce que dans cette aventure-là, lorsqu'elle est arrivée, là, votre maman, en disant, bon, écoute, parce qu'il me semble avoir vous dit, bon, écoute, moi, j'ai pas le temps. Puis alors, fouillez dans les photos. Puis, est-ce que vous avez dit oui tout de suite ou vous avez
hésité? Ben ça faisait longtemps qu'elle me parlait de ça. Ah, okay. Et puis bon, moi je voulais rien savoir. Bon,
mais elle non plus, il paraît.
Elle voulait rien savoir. Puis là, finalement, je crois que beaucoup de gens l'ont approché, beaucoup de gens lui en ont parlé. Certains se sont voulaient l'écrire pour elle, tout ça. Bon, et puis finalement, elle a dit bon, ben là, je pense que je suis prête à le faire, mais moi, je ne veux pas faire ça tout seul. Bon, tout ça. Puis moi, je dis non, moi, je ne veux pas faire ça toute seule non plus. Si on le fait ensemble, ça va. Alors, c'est comme ça que ça s'est, ça s'est décidé.
Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, dans le livre, elle dit carrément, en parlant de Sophie, votre sœur et vous, elle écrit que ça n'a pas dû être facile d'être la fille d'eux. Est-ce que vous confirmez?
Oh, ben oui, c'est certain qu'on confirme. Oui. Ben oui, ça nous a empoisonné la vie à plusieurs égards, il faut bien le dire.
Même si vous ne portiez pas son nom? Parce que, les gens savaient.
Ben, oh mon Dieu, mais écoute, c'est comme si on s'était promené avec l'écriteau d'en face. Écoute donc. Non. Sincèrement, c'est les gens s'imaginent que comme ça, toutes les portes s'ouvrent devant vous et ça y est, sésame, vous avez tout sur un plateau d'argent. Ça a été loin d'être le cas. Peut-être parce que maman n'est pas une personnalité facile. Peut-être parce qu'elle n'est pas du monde. Puis qu'il y a bien des gens qui avaient des comptes à régler, qui lui en voulaient. Puis bon, je pense qu'on a un petit peu, fait les frais de ça. Mais je dirais pas, on n'est pas des victimes non plus là. Mais c'est, je crois qu'on est un petit peu passé dans le
tordeur.
Ouais, un petit peu.
Page 220, on est presque à la fin du livre. Je me suis vue attribuer l'étiquette « pas facile de travailler avec elle », entre guillemets, et cette réputation a été alimentée de ragots, colportés à droite et à gauche, et de beaucoup d'histoires amplifiées ou carrément inventées. J'avoue que sur la défensive, j'élevais la voix souvent alors qu'on ne m'attaquait pas. Je pense que mon attitude prenait sa source dans les coups durs et les humiliations vécues et se nourrissait de la crainte de l'échec. Et un petit peu plus loin, elle dit « Heureusement, mes proches m'ont aidé à tempérer mes ardeurs ». C'est exactement ce dont vous parliez. Elle vous est redevable de ça, à un moment donné, d'avoir fait « Bon, écoute, Denise... »
Mais oui, parce qu'on lui disait « Écoute, oui, puis pas juste moi, mais plusieurs, puis son petit-fils aussi, puis tout le monde lui disait « Écoute, calme-toi, essaie de comprendre, les gens ne sont pas nécessairement... d'abord, ils sont impressionnés par toi, puis ses filles, puis ça, elle avait beaucoup de mal à comprendre ça. »
Parce que c'est vrai qu'elle est impressionnante.
Tu sais, mais elle ne croit pas ça, elle.
Moi, je suis presque contente qu'elle ne soit pas là. Mais non! Voilà, c'était fin déjà de la première demi-heure. Oui, ça passe très vite avec Daniel Laurent.
Merci.
Daniel, merci tellement d'être venu pour nous parler de ce livre « Quand t'es né pour un petit pain ». Merci, Gérald Cousineau, de l'avoir lu pour nous, d'être intervenu.
Merci, Gérald, mais oui.
Gérald, je vous garde avec nous pour la seconde partie parce que je voudrais que vous nous présentiez un bouquin un petit peu plus tard. C'est Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous présente des livres plein les oreilles. Restez avec nous. Des livres plein les oreilles. La suite. Une autre invitée en cette deuxième demi-heure, Geneviève Lefèvre. Bonjour Geneviève. Ah, est-ce qu'on pourrait ouvrir le micro à Geneviève, s'il vous plaît? Voilà, bonjour Geneviève.
Bonjour Clotilde.
Vous allez bien, merci de vous être déplacée aujourd'hui pour faire cette émission avec nous. Geneviève, il y a déjà quelqu'un à l'autre bout du fil qui voudrait certainement vous saluer et que moi aussi je vais saluer parce que c'est la première de la saison, donc c'est sa première participation. Yannick Olassa, bonjour.
Bonjour mesdames.
Tout va bien Yannick de votre côté?
Oui, tout va bien.
Alors Yannick, vous êtes, c'est de votre faute et c'est grâce à vous en fait que j'ai invité Geneviève Lefèvre aujourd'hui, l'auteur de « Va chercher l'insolite destin » de Julia Verdi. C'est vous hein, qui nous aviez soumis ce titre-là, vous aviez très envie de nous en parler. Vous nous en avez d'ailleurs parlé dans le cadre de l'émission « Aime l'été » il y a quelques semaines et ça m'a donné l'envie de mieux connaître Geneviève Lefèvre. Juste quelques mots pour dire qui vous êtes, peut-être pour les gens qui ne vous connaîtraient pas assez, Geneviève Lefèvre. Vous êtes scénariste,
oui.
Vous êtes traductrice pour le théâtre,
oui.
Vous êtes romancière,
oui.
Et vous êtes chroniqueuse. On peut vous lire notamment dans la presse.
Dans la presse, oui.
Et dans d'autres journaux?
Oui, dans Châtelaine de ce mois-ci, dans la revue Espace qui parle de plein air beaucoup.
Vous êtes sur toutes les plateformes, finalement. Télévision, cinéma, théâtre, web, la presse écrite,
tout
ce qui s'écrit.
Tout ce qui s'écrit.
Vous êtes une fanatique de la plume depuis toujours?
Oh, fanatique, c'est peut-être un bien grand mot.
Non, je ne sais pas. Une passionnée, en tout cas?
C'est ce que je fais de mieux, en tout cas.
Comme ça, c'est clair.
À part les gâteaux.
Et vous ne nous en avez pas amené. Mais
non, j'en ai pas amené.
Honte à vous, Geneviève. Alors, écoutez, Yannick, vous m'en aviez parlé avec beaucoup d'éloquence de ce livre-là, à Aime l'été. Je voudrais que vous recommenciez, puis si vous avez des questions à poser à Geneviève, eh bien, au contraire, je voulais provoquer cette rencontre entre une lectrice et son auteur.
Ah, ben c'est génial parce que j'aime beaucoup, beaucoup la plume de la sémillante, il faut le dire, Geneviève Lefèvre. Une femme d'une énergie là vraiment impressionnante. En fait, oui, j'ai beaucoup aimé cet avant-dernier roman, hein, parce que c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier. J'ai aimé le dernier aussi, là, je vous dirais.
C'est lequel? Le
dernier, c'est « Toutes les fois où je ne suis pas morte ».
Qui n'est pas malheureusement encore en audio, non. Mais qui pourrait bien l'être un jour. Mais il fallait c'est quand ça. Même qu'on le nomme, oui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans ce « Va chercher l'insolite destin » de Julia Verdi, qui, soit dit en passant, est absolument délectable. moi, j'ai été séduite il y a un bout de temps de ça déjà par la plume là de Geneviève. Hein. Puis je dis séduite parce que charmée, c'est pas assez fort. C'est vraiment... là.
Je vais te faire un gâteau.
Non, mais sérieusement, Geneviève a une écriture qui est vive, qui est précise. C'est toujours le bon mot. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, pour moi, ça a été un coup de cœur, ce roman-là, où il y a Julia, qui est une professionnelle accomplie, qui a une vie personnelle qui est plutôt décevante. Hein? Quand son chum la laisse après un bon souper au resto sur le bord de la rue, y a quelque chose qui s'amorce pour elle.
Une descente aux enfers?
Ben, en tout cas,
Geneviève fait non, pas vraiment.
Je dirais plus un apitoiement dans le sens où elle se demande... comment ça se fait que pour moi, ça marche pas, ça marche jamais? Puis elle a lu plusieurs livres de psychopop et on sait que dans les livres de psychopop, des fois, il y a des choses qui peuvent nous aider, mais d'autres fois, il y a des trucs qui laissent un peu sous-entendre que ben on mérite absolument
ce qu'il
y a de meilleur.
Oh mon Dieu, ce
qui
nous arrive, oui.
Et qu'il faudrait que, en fait, c'est comme si c'était pas aide-toi et le ciel t'aidera, mais le ciel t'aidera, tu le mérites bien.
Jusqu'à ce qu'il arrive à un événement, une rencontre.
Oui, une belle rencontre. Hein? Quand elle rencontre cette chienne qui est attachée à un lampadaire, et puis, bon, bien sûr, elle ne peut pas la laisser là, donc elle la recueille. Et avec l'intention, bien sûr, de la donner en adoption, mais elle ne pouvait pas, en plein novembre, la laisser comme ça. Donc, à travers cette petite chienne-là, elle va arriver à se remettre en question un petit peu sur son comportement et à constater que, bon, ben peut-être que tout ne lui est pas nécessairement dû, puis il faudrait peut-être qu'elle remette des choses en question dans son attitude et tout ça.
Geneviève sourit beaucoup. Geneviève, ça doit vous faire drôle, Geneviève Lefèvre, d'entendre raconter ce livre que vous avez mis au monde. Qu'est-ce qui vous fait sourire autant?
Ce qui me fait sourire, ben, c'est le chien qui fait l'éducation sa maîtresse.
Oui. Oui.
Tout à fait, tout à fait. Alors qu'on pense généralement que c'est l'inverse. Hein, on a beaucoup attiré des comportements de nos animaux de compagnie si on est ouvert à la chose.
Exemple, si elle l'amène au parc à chiens, c'est plus quasiment pour qu'elle socialise que le chien?
Ben, en fait, en tout cas, elle peut, elle observe les gens et puis elle observe comment la chienne interagit avec les autres chiens, avec un mâle en particulier. Et puis là, ben, elle se remet en question. Elle se voit un peu dans certains comportements de filles. Et il y a des choses qu'elle se rend compte qu'elle aurait peut-être intérêt à changer, ce qui est intéressant. Je veux vous en lire un
petit extrait. Avant. Et puis après, on va poser quelques questions à l'amie Geneviève au sujet de ce livre. Allez-y, on vous écoute.
Oui. Alors... en amour, c'est pareil, je ne prends pas de risques. Je ne choisis que des garçons qui ont du potentiel. En théorie, ils ont tout ce qu'il faut. Des diplômes, de l'ambition, une belle gueule et juste assez de désir pour me convaincre que cette fois, ça vaut la peine. Ils me déçoivent à tout coup s'enfuyant à toutes jambes devant le beau piédestal auquel il pourrait accéder si seulement il voulait bien écouter. Ils sont sourds, les tympans, sans doute déchirés par toutes les folles qui sont passées avant moi. Des saboteurs de bonheur, voilà ce qu'ils sont, me répète la voix dans ma tête. La voix, douce, ferme, apaisante. Elle a des intonations de miel et d'épices, et elle insiste pour me dire que je suis une fille merveilleuse, qui mérite le meilleur et qui jamais ne doit faire de compromis sur ses désirs. Mmh. Il m'arrive de penser que c'est Oprah qui laisse des messages à mon inconscient, qu'en cas de faiblesse passagère, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton pour les réécouter à volonté jusqu'à ce que ma détermination soit de nouveau sans faille. Si j'avais su à quel point cette voix était ma pire ennemie, je serais allée acheter un fusil et je l'aurais tiré entre les deux yeux, sans remords.
Ah!
Mais je ne savais pas, pas encore.
Geneviève, ça fait drôle hein, d'entendre ces mots lus par une, par une autre voix. C'est
oui,
ça,
oui,
c'est ça le livre audio, voyez-vous.
Oui.
C'est intéressant. Ce qu'on voudrait amener, voyez-vous, Geneviève et Yannick et tout le monde à cette émission, c'est que le livre audio, que ce ne soit pas fait pour les personnes non-voyantes. Que tout le monde connaisse, parce que c'est une joie, Gérald, vous qui êtes obligé maintenant d'utiliser les livres audio, ça a un charme inouï. Hein?
Généralement, oui.
Généralement, effectivement, ça dépend peut-être.
Mais la voix peut ajouter beaucoup au plaisir que nous donne déjà le livre au départ, oui.
Oui. Alors... Geneviève Lefebvre, cette histoire de chien.
Oui.
Comment, pourquoi? Est-ce que vous pensez réellement qu'on a, par exemple, à apprendre?
Oui, je suis persuadée
de ça. Vous êtes persuadée de
ça? D'abord, cette partie de l'histoire est vraie. J'ai trouvé une chienne abandonnée l'hiver dans ma ruelle. C'est encore un boxer et elle est encore avec moi 8 ans plus tard.
Ah!
Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire l'inverse. Au lieu de faire une éducation canine, on fait une éducation humaine.
Et c'est ce qui a donné lieu à ce livre-là.
Oui. Je me suis demandé, puis là, les idées sortaient toutes seules, puis je me suis amusée.
Geneviève, il y a un autre livre de vous qui est disponible au SQLA, et j'aimerais bien que vous nous en touchiez quelques mots. Ça s'appelle « Je compte les morts ».
Oui.
C'était votre premier roman qui a été publié en 2009. Hein. Quand même, il a été finaliste pour plusieurs prix littéraires. Ça raconte quoi? Je compte les morts.
Ah, ça raconte l'histoire d'un scénariste qui est engagé par un producteur, par une productrice qui appartient à la mafia, à une famille mafieuse, pour écrire une histoire et qui découvre en fait que la vraie histoire n'est pas celle pour laquelle on l'a engagé. Et ça l'amène dans le pétrin, c'est un roman noir.
OK. Et vous en avez fait d'autres après?
J'ai fait La vie comme avec toi, qui est la suite.
Oui,
avec le même personnage d'Antoine Gravel, qui est scénariste et qui a un don certain pour se mettre les pieds dans les plats et dans des situations dangereuses.
Alors, elle s'appelle Geneviève Lefebvre et à l'autre bout du fil, elle s'appelle Yannick Olassa. Yannick, je voudrais vous remercier. On vous retrouve un petit peu plus tard à l'émission. Vous allez nous proposer un livre de Christine Angot. Alors, écoutez, restez près de votre téléphone parce qu'on vous rappelle très vite et merci déjà pour cet entretien. Geneviève Lefebvre, merci de vous être déplacée. Je répète le nom des livres qu'on peut trouver au SQLA. Je compte les morts, votre premier roman, et puis celui-ci dont nous a parlé avec beaucoup d'éloquence Yannick Olassa, Va chercher l'insolite destin de Julia Verdi. Geneviève Lefebvre, merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Au revoir.
Au revoir.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café. que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café.
C'est Annie Poulain qui reprenait, oui, à son compte cette chanson de Serge Gainsbourg, « Couleur café ». Gérald Cousineau, vous avez envie de nous présenter un autre livre dont nous allons d'ailleurs entendre un extrait. J'adore le titre, mais allez, je vous laisse le dire, mais vraiment, j'aime tellement ce titre.
Alors, ça s'appelle « Les pieds dans la mousse de Caribou, la tête dans le cosmos ». C'est du regretté, ouais. Jean-Yves Soucy, regretté parce qu'il est mort en 2017. Est-ce que vous voulez l'extrait tout de suite?
Non, je voudrais que vous nous en parliez.
Alors, ce monsieur Soucy dit lui-même avoir fait 36 métiers, mais il n'a pas connu 36 misères, contrairement à l'expression. Il a fait toutes sortes de métiers, dont, heureusement pour nous, il a été écrivain, éditeur, etc. Donc, c'est son dernier livre. Monsieur Soucy, c'est un amateur de pêche. Il faut le dire, un grand pêcheur devant l'Éternel. Alors, pendant 3 étés consécutifs, il s'est rendu à Baie-Trinité. C'est à une centaine de kilomètres à l'est de Baie-Comeau, donc sur la côte nord. Il s'est rendu avec sa femme. Et c'est sous les arbres, dans sa roulotte, qu'il a mijoté ce livre, qui a été publié tout récemment, en 2018, donc « Les pieds dans la mousse du caribou ». Et il va d'abord, bien sûr, parler de pêche. On parle beaucoup de pêche dans ce livre parce que M. Soucy rêve de pêcher son premier saumon. Je ne vous dirai pas s'il va y arriver, mais entre-temps, il va pêcher de la truite. Mais son rêve, c'est de pêcher le poisson mythique par excellence, pour lui, bien sûr, le saumon. C'est sa baleine blanche à lui, disons. Alors, va-t-il y arriver? Vous le saurez si vous écoutez le livre. Donc, il va beaucoup pêcher, mais ce qui est bien avec Soucy, c'est qu'il va laisser son esprit vagabonder pour notre plus grand bonheur. Alors, il va passer de l'histoire de la création du monde, création de l'univers, il va parler de la formation des continents, et là, hop, il va revenir à la pêche, hop, il va repartir dans les étoiles. Alors, moi, j'aime beaucoup ça parce qu'il a vraiment laissé vagabonder son esprit, et là, nous, on le suit. Parce que le propos est toujours intelligent. C'est un monsieur qui est un observateur, mais quelle qualité d'observation qu'avait Soucy, observateur de haut vol. Il connaît la nature, il connaît le territoire. Et d'ailleurs, il va reprocher aux Québécois de ne pas connaître leur territoire, le territoire qu'ils habitent. Et je pense que c'est vrai. Lui, il va nommer les arbres, il va nommer les animaux, il va nommer les oiseaux. Et jamais c'est pas fait avec forfanterie, pas du tout. On sent un amour derrière tout ça, un amour d'habiter avec un H majuscule le paysage, et pas seulement celui de Baie-Trinité où il va vivre pendant 3 étés, mais tout le Québec, c'est vraiment sa vie, et il va transcender tout ça, parce qu'il ne parle pas que de pêche, il va passer de la pêche à l'univers, et là, il va se demander, mon Dieu, c'est vrai que l'homme, c'est peu de choses, c'est dérisoire dans l'univers, mais en même temps, l'homme occupe la place centrale de cet univers, et c'est ça qui nous rend, et c'est écrit de façon très simple, et je pense que... on va le dire tantôt, on va le savoir tantôt, c'est merveilleusement bien lu par Jacques Tremblay.
On va l'écouter par Jacques Tremblay, et justement, il est question de ses connaissances qu'il a dans l'extrait qui suit.
Aujourd'hui, l'horizon est bouché. La côte gaspésienne s'est évanouie. Il n'y a plus que la mer sans âge. Je ne dis pas éternelle, car il y a 250 millions d'années, il n'y aurait pas eu d'eau devant moi. L'océan Atlantique n'existait pas encore. L'Eurasie et l'Afrique s'adossaient à l'Amérique pour former un supercontinent, la Pangée. Je n'aurais eu qu'à faire quelques pas pour arriver dans la future Europe. 20 millions d'années plus tard, les courants de convection dans le manteau écartelèrent les masses continentales, provoquant une fissure, un rift, que l'eau envahit et qui s'élargit à mesure que la remontée de magma formait une croûte océanique. L'Atlantique était né, les continents s'éloignaient et continuent de le faire encore aujourd'hui au rythme de 2,5 cm par année, soit 2500 km par 100 millions d'années.
Il y a au fond de la mer des montagnes, des ravins, des villes, des cimetières, il y a des épaves dans la mer, dans le creux, parmi les joncs aux grands doigts. Il y a des hommes dans la mer, des femmes qui dorment, il y a des enfants dans la mer, pour couvrir tout cela, il y a des vagues sur la mer, buveuses de lune. Il y a des écumes aussi, des écorces, des lettres déchirées, des fleurs à la dérive. Il y a des oiseaux au-dessus de la mer, de grands oiseaux blancs, avec des yeux comme des gouttes d'eau. Des oiseaux sans voix qui tournent en rond le bec ouvert, qui piquent soudain dans les flots immenses, les ailes collées le long du corps comme deux bras qui bruissent en s'égouttant. Il y a des grèves autour de la mer, des coquillages et du sel, et de vieux marins qui ne voguent plus, qu'on a débarqués, mais qui sont repartis dans des voyages sans escale. Il y a le soleil sur la mer, et toi au bord, qui le regarde descendre dans l'eau.
Nous étions en Gaspésie avec Félix. Bon, ça n'était pas sur la côte nord où nous amenait dans son livre votre Monsieur Souci.
Oui.
Et ce livre que vous êtes venu nous présenter, Gérald, et je vous en remercie beaucoup. Redonnez-nous le titre que j'aime tant et que je cherche
joliment
d'ailleurs.
Les pieds dans la mousse du caribou, la tête dans le cosmos. Et je dirais que ne serait-ce que pour une chose, Souci manifeste, il a une faculté trop rare à mon avis, il s'émerveille devant le monde qui nous entoure. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on finit par prendre tout pour acquis, alors que lui, non. Il s'émerveille comme un enfant qui découvrirait le monde. Voilà.
Alors, c'est québécois, c'est bien sûr disponible au SQLA.
En format sonore ou SQLA,
voilà, Merci beaucoup, Gérald, pour cette première participation, et pas la dernière.
Non.
Et je retrouve Yannick Olassa. Ça va, Yannick?
Oui, ça va toujours.
Bon, Yannick, un livre, ma foi, dont j'ai bien hâte que vous nous en parliez, c'est le livre de Christine Angot qui s'appelle « Un amour impossible ».
Oui, Christine Angot, on doit savoir, c'est une écrivaine française qui écrit surtout de l'autofiction, c'est-à-dire que c'est basé sur son propre vécu, mais romancé un peu. Christine Angot a beaucoup écrit sur l'inceste. Elle est elle-même victime d'inceste de la part de son père à l'adolescence. Et Un amour impossible, cette fois-ci, va raconter, parce qu'elle l'a écrit là-dessus, mais là, elle raconte deux histoires d'amour, en fait. Une à sens unique entre sa mère et son père, qu'elle appellera le géniteur. Et l'autre entre elle-même et sa mère. Le ton du roman est complètement à l'opposé des précédents. Excite la hargne et bienvenue la tendresse. Et je dois vous dire que ça fait du bien de lire ça de la part de Christine Angot, de lire une espèce de plénitude amoureuse malgré tout ce qu'elle a vécu. En gros, là, le récit est centré sur sa mère et sur la femme qu'elle est. Et, bon, bien sûr, sur les relations amoureuses. Il est beaucoup question de la correspondance entre la mère et le géniteur. Et il y a Christine qui est là. Et on en apprend sur vraiment la dynamique qu'il y avait entre son père et sa mère et son père et elle-même.
Je vous propose, restez avec nous Yannick, je vais vous reparler juste après, mais j'ai un extrait de ce livre, Un amour impossible, lu par Christine Angot. Je vous propose qu'on l'écoute.
Alors.
Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la gare, dans la cantine qu'elle fréquentait. À 26 ans, elle était déjà à la Sécurité sociale depuis plusieurs années. Elle a commencé à travailler à 17 ans comme dactylo dans un garage. Lui, après de longues études, à 30 ans, c'était son premier poste. Il était traducteur à la base américaine de la Martinerie. Les Américains avaient construit entre Châteauroux et Levroux un quartier qui s'étendait sur plusieurs hectares, de petites maisons individuelles de plein pied, entourées de jardins, sans clôture, dans lesquelles les familles des militaires vivaient. La base leur avait été confiée dans le cadre du plan Marshall, au début des années 50. Quelques arbres y avaient été plantés, mais quand on passait devant, de la route, on voyait une multitude de toits rouges à quatre pentes, disséminés sur une large plaine sans obstacle.
Voilà un extrait de « Un amour impossible » de Christine Angot, lu par l'auteur. Et là, vous allez me dire, où est-ce qu'on peut entendre ça? Eh bien là, j'ai été très mauvaise fille, Yannick, et j'ai oublié de le noter sur ma feuille. J'en avais tellement sur le dos cette semaine. Mais regardez, vous, auditeurs, si vous êtes intéressés, si vous faites « Un amour impossible », Christine Angot, A-N-G-O-T, livre audio, vous allez forcément tomber dessus. C'est par l'intermédiaire d'une bibliothèque française. C'est pas Valentin Huy, je pense que c'est la Bibliothèque nationale des livres audio en France. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire là? Eh bien, on peut s'y inscrire tout bêtement, exactement comme au SQLA, en leur envoyant un formulaire et une preuve de votre déficience visuelle ou perceptuelle. Alors, et ensuite, vous aurez la référence. Bien, écoutez, il y a des milliers de livres qui sont là, et notamment des nouveautés. Un amour impossible, ce n'est pas une nouveauté, hein, Yannick.
Ben, en fait, probablement qu'il est sorti en France... dans le courant de la dernière année, je crois que ça fait quelques années là, qu'il a été publié. Voilà. Mais bon, de là à la traduction ou la transmission plutôt, en volet audio, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais en fait, c'est un des derniers. Elle en sort un là, cet automne, mais c'est un de ces derniers. Et je vous dirais que je pense que c'était nécessaire parce qu'il y avait tout l'aspect de la relation avec le père qui a été exploré dans d'autres romans. Et là, ça vient, à mon avis, clore un peu le sujet. Mm-hmm. C'est un aspect qu'on parle un petit peu moins, hein, la relation à la mère quand il y a eu un inceste père-enfant. Et je trouvais là que c'était très intéressant là de le voir.
Eh bien, merci infiniment, Yannick. Et je me souviens, c'est chez Gallimard que ce livre audio a été enregistré. Alors là, ce n'est pas un livre gratuit, c'est un livre à télécharger. Yannick, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
On y va avec la bande-annonce. La semaine prochaine, à l'émission, je vais recevoir Marie-Claude Brasseur et Louise Lacourcière. Marie-Claude Brasseur a lu le livre « La jeune fille au piano » signé par Louise Lacourcière. En voici un petit extrait.
Le tangage du wagon la berçait. Les explications de son père également. Son cher papa. Là, Anne, on traverse un corridor de roseaux. Je devrais plutôt dire une mer de roseaux. Des roseaux? Comme à Saint-Léon? Mais oui, tu te souviens, on les retrouve en bordure des reins. Si c'est humide, dans les fossés et les marais aussi. Ils aiment l'eau. Mais ici, il y en a beaucoup plus. Aveugle depuis l'âge de 3 ans, Anne ne franchissait pas seule les limites de la cour à l'arrière de la maison paternelle. « Pour ton bien », lui avaient répété ses parents. « Pour te protéger », lui avait-il chanté sur tous les tons. Pourquoi n'assistait-elle pas à la messe comme ses frères et sœurs? Ne recevait-elle pas le sacrement de l'Eucharistie à l'église plutôt que d'obliger le curé à venir chez elle lui donner la communion? Pourquoi l'empêchait-on d'aller à l'école, de jouer dehors, de se promener dans le village? En réponse à ses insistants, pourquoi? Sa mère, à bout de nerfs, lui avait un jour crié « Un aveugle dans une famille, c'est une punition du bon Dieu. » Tu ne veux quand même pas que, en plus, on s'humilie devant tout le monde? Et puis s'il fallait qu'une femme en famille te regarde et qu'après elle mette au monde un bébé qui ne voit pas clair, ce serait ta faute, de notre faute. Imagines-tu notre honte? Plus personne ne nous parlerait. C'est ça que tu cherches?
Voilà, c'était un extrait de La jeune fille au piano de Louise Lacourcière que je reçois la semaine prochaine avec sa lectrice Marie-Claude Brasseur. Merci à tous mes invités, c'est la fin de cette première émission. Merci à Daniel Lorrain, Geneviève Lefebvre et à Nicolas Sa et Gérald Cousineau qu'on retrouvera très prochainement sur nos ondes. C'était Clotilde Seille qui remercie en régie l'ami Mathieu et Jean-François Roy. À bientôt mes amis et bonne lecture audio, évidemment.